Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Mais elle a réussi à s'enfuir. Je lui ai mordu la jambe. C'était très bon, comme du poulet.
Et s'il lui demande, il n'est pas mangé.
L'homme lui dit, allez, allons à la cave. Tiens, Nancy, par le bras. Allez, viens.
Au secours! Au secours! Au secours!
Tu auras beau crier, ça ne servira à rien. Il mord mes vibes. Et puis, les gens on peur de sortir la nuit. Tire Alexis vers le fond de l'allée. Là derrière les escaliers, il y a une porte grillagée qui mène aux caves. Il le pousse. Il ouvre la porte. Et d'un geste, il fait dégringoler les escaliers. Alexis se retrouve en bas, à moitié mort, le dos plein de douleur. L'homme va vers lui. Il se penche et le soulève. Se trouve dans le couloir de la cave. Ça sent l'humidité, le sol est humide, mouillé. L'homme le tire. S'il lui demande, où allez-vous m'emmener ? Il lui dit, vers les rats. Et il suit le couloir qui est sombre, très sombre. On n'y voit presque rien. L'homme tire Alexis. Tout d'un coup, sort de l'ombre deux hommes. Aussi horribles que l'homme. Ils sont grands, maigres, maigres, habillés d'un manteau sale, plein de taches rouges. Leurs visages sont blancs, terreux, tellement grenèbres qu'on a l'impression que les os se trouvent très minces sur la peau, que les os sont sans peau. Aïtine frissonne en les voyant. L'homme tire à lui Alexis. Un des hommes dit, « Alors, tu nous amènes de la nourriture ?»« Tu as fait bonne chasse ?» L'homme dit, « Il est à moi. » »« Oui. » »« Ce n'est pas pour ça que je l'ai pris. » Et tu dis, « Et pourquoi ? Pour remplacer ta poupée gonflable ?» Allez, va. Tu vas être bon. Et nous donner un petit quelque chose. Sûrement pas. L'homme s'approche. Mais c'est pas l'imbécile, mon vieux. Nous sommes plusieurs. Souviens-toi de l'homme au rein. L'homme recule. Les autres sont tout près de lui. Ne me touchez pas. Il monte son couteau. Les autres en font autant. L'homme d'un geste plaque Alexis contre le mur. D'un geste tellement brusque qu'Alexis est à moitié assommé. Puis il voit les hommes s'avancer. L'homme recule. Les autres sont contre lui. L'homme se bat. Alexis est tellement terrorisé, c'est qu'il n'ose pas ni bouger ni parler. Contre les autres. Il est paralysé de peur. Ils essayent, c'est de lui donner des coups de couteau. Tout d'un coup, l'homme tombe en reculant et a trébuché sur une pierre. Les autres plongent sur lui. Élève leur arme. L'homme essaye de se défendre, de se protéger autant qu'il le peut, avec ses poings, ses pieds. Mais ils sont trop près de lui, ils sont trop sur lui. Lui aussi essaye de donner des coups de couteau. Le sang gicle. Si, apeuré à terre, voit le sang gicler, les hommes donner des coups de couteau au hasard sur l'homme. L'homme qui hurle et gigote. Alexis, effrayé, horrifié, se relève d'un bond, un peu étourdi. Il voit une barre de fer à terre, une barre à mine. Il la prend et fonce de toutes ses forces sur les hommes. Et donne des coups au hasard, dans le dos, la tête. Il fait des moulinets et tape, tape, tape. Les choses ont été tellement vite qu'il a surpris les hommes qui n'ont pu se protéger et ne le peuvent. Un tombe à la renverse, la tête défoncée, rouge. C'est le coup qu'il a reçu. Un autre, c'est le dos qui est fait tomber en avant. Un autre, un coup à la tempe. Un autre, la cage thoracique. Alexis, sa rage lui a donné une force surhumaine. Les trois hommes sont à terre. Près de l'homme. Alexis se penche L'homme ne bouge pas. Il est dans une mare de sang. Il est mort. Alexis, horrifié, recule. Il sent quelque chose. Il se retourne. C'est un homme aussi laid que les autres. Oh! L'homme lui sourit et lui dit « Joli travail. Tu ne vas pas manger tout ça tout seul, non ?» Alexis lui dit « Je te les laisse. » L'homme sourit, lui tend la main. Alexis s'éloigne en contournant l'homme. Monte les escaliers. Et il entend l'homme manger. Un homme. Alexis monte les escaliers en vitesse. Il sort de la cave. Et de l'immeuble. Il court, il court. Il essaie de voir, de savoir où se trouvent les quais. Enfin, il trouve les quais, mais reste côté rue. Le jour commence à se lever. Puis, il s'arrête de marcher. Tout d'un coup, il se demande si c'est lui, avec ses coups, qui a tué l'homme. Comment le savoir? Il tapait au hasard, comme il pouvait. Il entre au grenier, il est 6h du matin. Quitte ses vêtements, qui sont très sales. Et se couche. Le lendemain après-midi, lorsqu'il retrouve Mathieu dans sa chambre, Mathieu lui demande « Et la fille ?» Elle-ci ne se souvenait plus de la fille, mais de ce qui lui était arrivé après. Il lui dit « J'ai failli être mangé. » Mathieu lui dit « Quelle fille ?» Toi alors, un sacré caractère. Et il lui dit, mais non, c'est pas la fille, mais des mecs. Et il lui raconte tout. Il lui parle aussi de la fille. Mathieu lui dit, elle doit avoir un sacré caractère, celle-là. Les jours passent. Les deux garçons attendent les résultats. Madame Poncet aussi. Le jour des résultats arrive. Les deux garçons vont voir. Il y a foule pour voir. Elle tient à passer son bac en même temps que Mathieu, parce qu'il a sauté une classe. Et Mathieu était en avance d'un an lui aussi. Oui, ils sont reçus, tous les deux, très heureux. Dans la foule, il y a la fille qui va à eux et leur dit « Moi aussi, j'étais reçue. Je suis très heureuse. J'organise une fête chez moi. Vous venez ?» Elle s'y lui dit « Non, merci. Je ne peux pas. » Elle lui fait « C'est pas gentil. Tu ne peux pas me faire ça. Tu me dois. » Et ici, il lui dit « Rien du tout. » Elle lui fait « Mais... » Il lui dit « C'est toi qui l'as voulu. Et puis tu l'as fait parce que on voulait savoir si je pouvais faire avec une fille. Tu as réussi à faire ce que tu voulais. Dégage. » Et il dit « Tu disais pas ça la nuit dernière. » Et il lui dit « Ce n'était qu'un jeune sans expérience. Et puis j'ai entendu les culpas parler. Allez, tu dégages. » Elle ose ses épaules et lui dit « Tu me le paieras, mon cher. » Et elle se retire. Aïtsi dit « Allons annoncer la nouvelle à nos parents. » Et ils ont annoncé la nouvelle à leurs parents. La mère de Mathieu et le père d'Alexis sont très heureux. Alexis va le dire à sa mère, qui est très heureuse. Il va aussi le dire à Madame Poncet, qui lui offre une belle montre de chez Cartier. Elle lui dit « Tiens, c'est pour toi. » Il lui dit « Mais c'est beaucoup trop beau. » Elle lui dit « Si tu étais mon fils, je t'en aurais donné une aussi. Tu peux avoir de grandes espérances. » Ça gêne Alexis et se dit « Pourvu qu'elle ne se mette pas dans la tête de me voir comme son fils et de me vouloir comme son fils, ce serait gênant. J'ai ma mère tout de même. » Les deux garçons ont décidé et ont dit à leur famille qu'ils ne voulaient pas de fête, qu'on ne fête pas ça. Alors le père d'Alexis a dit « Eh bien, pour vous remercier, nous allons vous offrir des vacances. » Mathieu lui dit « D'accord pour les vacances, mais avant, nous devons c'est passer un examen pour entrer à l'école biotechnique. » Le père lui fait « Comment un examen ?» Oui. Les deux garçons ont envoyé des photocopies de leurs diplômes à l'école en leur disant qu'ils souhaitent y suivre des cours. Une semaine plus tard, ils reçoivent une réponse pour un rendez-vous pour faire un petit examen. L'examen se fera à Lyon, au siège Pontoise, dans le quartier de Gerland. Les deux garçons sont ennuyés. Aller à Lyon, le prix du déplacement, l'hôtel, tout ça, et pour 3 jours. Mathieu dit à Alexis, c'est trop cher pour moi. Je pourrais pas aller à l'examen. pourrait bien le faire à Paris tout de même. Il s'y dit. Il faut y aller. Le soir, en dînant au grenier avec son père, il lui dit « Papa, est-ce qu'on ne pourrait pas payer le séjour à Lyon à Mathieu ? Ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Et puis ils nous ont bien aidés. » Son père lui dit « Oui, bien sûr. Et puis, avec l'argent de Madame Poncet que tu as reçu. » Et les deux garçons prennent le train, à la gare de Lyon. Ils ont rendez-vous pour le lendemain au siège. Ils partent en début de matinée. Le trajet sera long, 5 heures, plus de TGV à cause du manque d'énergie. On a remis en marche les trains à vapeur, comme je vous l'ai souvent dit. Les garçons ont réservé les billets par Internet.
Le 37, ça doit être ton train, t'as entendu?
Non.
Vous avez entendu, madame?
Oui, oui.
Vous pouvez me dire?
Le train arrive en gare. Il y a du monde pour entrer dans les wagons. Les deux garçons entrent dans un wagon de deuxième classe et trouvent une place assise dans un compartiment. Ils sont assis à côté d'un vieux monsieur. En face d'eux se trouve une grosse dame, cheveux gris, robe à fleurs. Elle porte des lunettes. Il y a à côté d'elle une femme plus petite, cheveux noirs, coupés courts. Visage dur, sombre. Elle porte...
Je savais, je sais pas, on devrait prendre de l'avance, c'est toujours mieux.
Un parkour vert et un pantalon beige.
Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font?
Le train se met en route. Il fait chaud dans le compartiment. Il est 7h30. Il quitte la gare et roule dans Paris. Le jour s'est levé, il fait soleil. Alexis regarde à la fenêtre et dit « Ça fait bizarre de voir Paris comme ça. J'ai l'impression... C'est que ce n'est pas ma ville. C'est étrange, tous ces gens dans les rues. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si la ville m'oubliait. » Puis, c'est la proche banlieue, petite maison lugubre, HLM sale, avec des paraboles, tapis sur les balcons, zone industrielle, hangar d'usine ou de grandes surfaces. La laideur dans toute sa splendeur. Puis, après un moment, enfin l'herbe, les arbres, des maisons isolées. Mathieu lui dit, voilà parti pour Saint-Cor. Le petit homme tout maigre, à cheveux gris, et qui a quelque chose de bizarre, leur dit, je m'appelle Pierre-Max. Et je vais à Lyon. Et s'il regarde, Pierre-Max sourit et lui dit, je suis Lyon et je fais une émission de radio à Radio Métropole, à l'écoute du monde. C'est une émission pour les gens du monde. Et s'il ne dit rien, Pierre-Max lui dit, Il faudra venir me voir à mon émission le vendredi à 12h15. Et s'il dit, nous ne sommes pas des lions, nous repartons jeudi. C'est dommage. La grosse femme qui est en face d'eux dit à sa voisine, j'espère que nous arriverons à l'heure. Et tu dis, ils ont intérêt, parce que je leur fais un procès et écris au ministre. Ils n'ont pas le droit d'arriver en retard. On ne doit pas rater le 61. Autrement, je leur fais payer le taxi. La grosse dame lui dit, vous croyez? Et tu dis, oui, bien sûr. Et si j'écris à Michel Mercier pour lui dire que les trains arrivent en retard. La dernière fois, il est arrivé 5 minutes en retard. Et j'ai raté le 61. La grosse dame lui dit, est-ce que vous croyez que ça valait la peine, ça valait la peine de faire tout ce voyage pour une journée de réunion? Bien sûr que si. Et pour défendre nos droits, il faut défendre nos droits. Et puis le voyage a été payé par le comité de locataires. On ne pouvait pas manquer la réunion internationale des comités de locataires de HLM d'Europe. La grosse dame lui dit, ça me semble être un peu de gauche tout ça. Donc lui dit, vous croyez? Oui, et on a manifesté. Pour l'anti-nucléaire, la retraite à 60 ans et les sans-papiers. La femme lui dit, moi, non, j'ai pas fait la grève pour les sans-papiers, je suis con. Oui, mais vous avez été obligé, c'est de signer la pétition et de la faire signer, alors. Et c'était un moment, le petit homme dit, moi je chante les Negros spirituals. Et il chante, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Les deux hommes se regardent. Puis, c'est le silence. Voyage se poursuit sans histoire. À midi, on entend dans le couloir la sonnette qui annonce le repas qui se fera dans le wagon restaurant. La grosse dame dit, moi j'y vais pas, et vous, l'autre dit, sûrement pas, ce sont des voleurs. Et j'en ai parlé au ministre, tous ces voleurs. J'ai amené à manger. Et tu dis, moi aussi. Et chacun ouvre son sac. La femme maigre sort de son sac dans un paquet enroulé avec du papier journal. Elle ouvre et en sort un petit morceau de pain moisi, d'une couleur marron avec des taches violentées. Elle dit, la nourriture c'est cher, alors je n'achète que ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas acheter à l'épicier de la rue Chazière, c'est un voleur. La grosse dame ouvre son panier et en sort un papier alu. Il y a dedans du pain, du poulet et une grosse poire. Elle demande à un autre, vous en voulez un morceau? Oh oui, merci, bien sûr. La grosse lui dit, j'ai acheté chez l'épicier. L'autre lui dit en mordant le morceau, nous sommes en voyage. l'autre lui tend un bout de poulet. La petite femme maigre mange goulûment et n'en laisse pas une miette. Elle dit, il est délicieux. Une part vous met l'odeur à la bouche. Elle dit ça pour que l'autre comprenne qu'elle en aimerait bien une deuxième tranche. Mais l'autre est contre. Elle est contre tout, la petite femme, mais lorsque c'est gratuit, elle ne dit pas non, ou jamais non. Mais l'autre femme fait la sourde oreille parce qu'elle a trop faim. Pierre-Marc dit aux autres gens, j'ai oublié ma carte, je ne peux pas aller au restaurant. Les deux garçons ne disent rien. Pierre-Marc dit, je ne fais jamais la cuisine à la maison, c'est Mathieu qui me l'a fait. C'est bien. C'est triste de ne pas avoir de carte. Il la regarde avec des yeux tristes. Vous allez au restaurant? Et s'il dit non, Pierre-Marc dit, oh, c'est dommage, tant pis. Les deux garçons prennent de leur sac un paquet de biscuits au chocolat. Pierre-Marc fait, oh. Et s'il dit, vous en voulez un? Oh, oui, j'aime bien ça, moi. Et il tend les mains. Elle ouvre le paquet et lui donne un gâteau. Pierre-Marc se mange et dit, wow. Et s'y demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la merde. C'est pas bon du tout. Moi, je n'aime que les choses bien faites. Ça, c'est pour rien. Mathieu lui dit, vous pourriez être poli et ne pas dire que c'est de la merde que l'on vous donne. Pierre-Marc lui dit, mais c'est vrai, je dis ce que je veux. Moi, lorsque la nounou me donne de la merde, je le lui dis. Et ici se dit que ce doit être un fou. Et le garçon mange en silence. La petite dame dit, c'est plus cher que le pain, ça. Mathieu lui dit, vous en voulez? Oh oui, merci. Mathieu lui dit, c'est trop cher. Et lui fait, grossier personnage. J'en parlerai au ministre, à la police et à le parc. Et ici lui dit, vous pouvez vous plaindre à qui vous voudrez. Nous sommes des amis de Franc Blanc. Et lui fait, vous? Sûrement pas. Et lui dit, et vous, du ministre? Ça m'étonnerait. Et se taise. Trajet interminable, ils arrivent épuisés, affamés, enfin à Lyon. Ils prennent leurs bagages et sortent du train.
Bon, on les mange ces sandwichs.
Après tout ce que t'as mangé ce midi, t'as encore faim, c'est monstrueux.
Le ciel est gris.
J'ai faim.
La gare sent la fumée, l'essence, la poussière. et les clodos. Il y a beaucoup de SDF qui font la quête.
Lâche, la visite.
Ils sont assis à terre, même au milieu du passage. Il y a même des enfants.
C'est dans une heure.
Ils sortent de la gare.
Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? 21h37, mais tu te rends compte, c'est dans une heure.
Place Carnot, salle pleine de détritus, de clochards allongés sur des pelouses. Mathieu demande à Alexis, tu sais où est l'hôtel? C'est un hôtel que j'ai trouvé sur internet. Alexis lui dit, non, ils vont prendre un taxi. Ils vont vers les taxis. Il y a plein de familles avec des tas de bagages, valises défoncées, attachées avec des ficelles, sacs de voyage, cartons. Les gens sont seuls et les familles nombreuses. Ils parlent un français difficile à comprendre. Depuis que la mairie de gauche, la ville de Lyon, accueille des gens qui viennent de partout. Chacun parle son langage. Il sait bien que les gens gardent leur culture. Des gens traînent, n'ont rien. Traînent. Sans rien et croient que tout leur est donné sans qu'ils soient obligés de dire merci, bien au contraire, puisque tout leur est dû. Ils iront dans des associations anti-tout, associations anti-tout et même contre eux, pour les aider, pour leur donner plus. Et ne comprendront pas pourquoi, puisqu'on leur donne, pourquoi est-ce qu'ils auront à travailler, puisqu'on leur donne tout. Enfin, c'est au tour de nos amis d'entrer dans un taxi, s'y engouffre. Un chauffeur à gros moustache et casquette leur demande, vous allez où? Et s'il lui dit, hôtel Saint-Vincent, dans le premier arrondissement. En bas de la Croix-Rousse, vers le quai Saint-Vincent. Le chauffeur lui demande, bien, allons-y. Vous connaissez Lyon? Et il dit, non. Le chauffeur leur a demandé ça, comme ça il pourra leur faire un parcours plus long et il met sa voiture en route. Décide de passer par Gerland, les quais du Rhône, la Part-Dieu, le cours Lafayette, les quais de Saône, la voiture file, les rues sont sales, pleines de détritus, des voitures qui ont pris feu, immeubles délabré. Les personnes sont maigres, en guenilles. Ça ressemble à la cour des miracles, ou à une ville africaine, ou indienne, cosmopolite. qui voulait attirer les étrangers les attire. Même au-delà de leurs espoirs. Les deux garçons regardent tout ça. Ils pensent que c'est pire qu'à Paris. Passant devant l'hôtel de ville, le drapeau noir flotte. Mathieu lui dit, je ne veux pas être embauché pour habiter ici. Et il dit, moi non plus. Enfin, ils arrivent à l'hôtel Saint-Vincent. La voiture s'arrête devant un petit hôtel dans une petite rue. Une rue étroite et sale. Alexis paye le taxi, ils sortent du taxi. Mathieu dit, c'est très cher le trajet. Alexis lui dit, oui mais le trajet était long. Ils entrent dans l'hôtel. Indenté propre. Vont à la banque où se trouve un homme. Le concierge, à cheveux blancs et costume gris. Alexis dit, bonjour, nous avons retenu une chambre pour deux personnes sur Internet. Votre nom, s'il vous plaît. Alexis Prudent. L'homme regarde sur son ordinateur et lui dit, votre carte, s'il vous plaît. Alexis lui donne sa carte. Il a mis sur l'écran et regarde. Votre doigt. Il a mis sur l'écran. Et dit, bien, chambre 421. Il entend les clés. Tenez. Premier étage. Les garçons vont à leur chambre. Il n'y a pas d'ascenseur. Arrivé au premier étage, ils trouvent la chambre. Ouvre la porte. La pièce est grande, propre. Il y a un lit à deux places. Les meubles sont 1960, dessus de lit en laine jaune. Il y a dans un coin une douche et les WC. Le tout caché par un paravent. Et s'il dit, c'est propre, c'est convenable. Il est 19h, ils sont crevés. Défont leur valise. Prendre une douche. Ils prennent la douche encore à leur tour. Ils se sentent un peu gênés de faire ça l'un côté de l'autre, mais ils se disent qu'ils se connaissent déjà. Connaissent depuis longtemps et se sont vus souvent nus. Puis, après avoir pris leur douche, Alexis dit, je suis crevé, je vais me recroger un peu, reposer un peu. Mathieu lui dit, oui, tu as raison. Et ils vont s'allonger
sur le lit.
Ils n'ont pas pas ouvert les volets. Le bruit qu'ils connaissent pas, l'odeur, le décor, les empêche de vraiment s'endormir et de se détendre. Puis, au bout d'un moment, ils arrivent malgré tout à dormir un peu. Deux heures plus tard, ils se réveillent presque ensemble. Elle s'y demande, « Tu as bien dormi ?» Mathieu lui dit, « Oui,
j'ai faim. »
Alors, il se lève. S'habille. Il sort de la chambre. Elle s'y demande au concierge, « Vous savez où on pourrait manger ?» Le concierge lui dit, « Nous ne faisons pas pension, mais dans la rue du Sergent-Blangeant, il y a beaucoup de restaurants. Merci. » Et ils sortent de l'hôtel. La rue du Sergent-Blangeant est en face de l'hôtel. Une petite rue pavée étroite où il y a une école primaire et maternelle, des restaurants. Il y a aussi une radio Anard. Les immeubles sont sales. Ils trouvent un restaurant qui semble leur convenir, la Gousse d'ail. Comme ils n'ont pas beaucoup de crédit, ils n'ont pris que le plat du jour, une assiette de charcuterie. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Plaine.
plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.